Nous vous proposons une nouvelle édition de Du côté de chez Schwartz, l'émission actuelle et culturelle de Radio Shalom. Et cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Gilles Anus qui nous parle de relief de la mémoire, théorie des trous de mémoire, qui vient de paraître chez Libère. Bonsoir Gilles.
Bonsoir.
Alors, quelques mots de présentation. Vous m'intéressez, je vais le dire pourquoi dans un instant. Donc, vous êtes docteur en histoire et sémiologie du texte et de l'image. Vous enseignez la philosophie dans le secondaire. Vous avez été l'élève de Benny Lévy. Alors, je le dis parce que c'est important, on le sent dans vos écrits. Et vous transmettez ces enseignements. À ce titre, vous dirigez les cahiers d'études lévinassiennes et animez l'Institut d'études lévinassiennes. Vous donnez régulièrement des conférences. Vous avez commis plusieurs articles et plusieurs livres de philosophie, dont l'un est l'universel Lire Lévinas avec Benny Lévy. Benny Lévy, l'éclat de la pensée, sans image ni parole, Spinoza face à la révélation, essentiellement chez Verdier. Et donc, je dois vous dire que pour l'historienne que je suis, eh bien, la philosophie est toujours restée la reine des humanités. Et je suis absolument ravie de pouvoir discuter avec vous aujourd'hui. Est-ce que, justement, la question que je souhaitais vous poser en premier, est-ce que chez vous, dans vos écrits, dans votre réflexion, la filiation avec Emmanuel Lévinas qui passe par Benny Lévy est très présente ?
Elle est nécessairement présente puisque, comme vous savez, toute la fin de la vie de Benny Lévy a été consacrée à une étude extrêmement serrée des textes de Lévinas. Et c'est le moment où je fréquentais beaucoup Benny Lévy. Et donc, j'étais le correspondant français, disons, de l'Institut d'études lévinassiennes. J'ai pris la tête, comme vous l'avez dit, des cahiers d'études lévinassiennes. Donc, il est certain que Lévinas joue un rôle très important dans ma réflexion en général. Alors, pendant longtemps, disons, j'ai consacré deux ouvrages à Lévinas lui-même, à sa pensée. Toujours au prisme de la lecture de Benny Lévy, mais enfin avec des petites choses personnelles, bien entendu, aussi. Et puis maintenant, Lévinas est davantage, si vous voulez, une source d'inspiration. C'est-à-dire que très souvent, les problèmes que je me pose, je les trouve chez Lévinas. Ça ne veut pas dire que je les développerai avec la pensée de Lévinas nécessairement, mais très souvent, l'impulsion de mon travail de réflexion prend naissance chez lui.
Alors, une autre question aussi qui me turlupine depuis un moment. Vous êtes, comme Emmanuel Lévinas, un philosophe qui puise parfois des références dans les textes de la tradition juive. J'avais lu un texte de Catherine Chalier, la philosophe, qui disait que pour Emmanuel Lévinas, se référer aux sources de la tradition juive, c'était quelque part déchoir. C'est le mot qu'elle emploie. Est-ce que pour vous, vous avez aussi, en tant que philosophe, ce rapport aux textes de la tradition juive ?
Non, pas du tout. Déchoir, je ne pourrais pas dire ça. Il me semble quand même que tout le geste de Lévinas, puis je parlerai de moi un tout petit peu après, mais il me semble que tout le geste de Lévinas est un geste dans lequel deux sources se télescopent, pour ainsi dire, et se fécondent l'une l'autre réciproquement. Donc la source strictement philosophique, la tradition philosophique, pour le dire ainsi, et puis la tradition juive, qui joue un rôle absolument fondamental chez lui et qui n'est pas du tout une déchéance par rapport à la philosophie. C'est vrai que Lévinas n'aimait pas qu'on le qualifie de philosophe juif ou de philosophe religieux. Bon, c'est une chose, c'est une question de justesse des mots, si vous voulez. Mais sa pensée est absolument inconcevable. Sans ce croisement, sans cette fécondation, si vous voulez, c'est quand même l'un des seuls, le seul philosophe à ma connaissance, l'un des seuls, disons, dans les livres duquel, les livres de philosophie, vous allez trouver des références très brève, très, très succincte, mais au Talmud ou à la Torah régulièrement. C'est quand même frappant. Et si vous lisez l'autre partie, puisqu'on a coutume de diviser l'œuvre de Lévinas en deux, les lectures talmudiques d'un côté et puis la philosophie de l'autre. Si
parce qu'il lisez, y tenait.
Parce qu'il y tenait, parce qu'il avait, oui, il avait acté cette séparation en publiant chez des éditeurs différents. Maintenant, si vous lisez les lectures talmudiques comme sa philosophie, on ne comprend pas les lectures talmudiques si on n'a pas un peu connaissance de la philosophie d'Emmanuel Lévinas. Donc la séparation a été voulue par Lévinas, mais cette séparation, et c'est un peu le sujet du livre d'ailleurs sur les trous de mémoire, cette séparation, elle n'est pas absolument imperméable puisque les deux choses n'arrêtent pas de produire des effets l'une dans l'autre. Et je crois que c'est impossible d'envisager Lévinas comme un pur phénoménologue, ce qu'il est. Il est un très grand phénoménologue. Ou comme un pur penseur juif, ce qu'il est aussi, il est un grand penseur juif. Mais je crois que vraiment, c'est dans la fécondation réciproque de ces deux sources que se joue l'intérêt en plus de sa pensée. Je pense qu'on rate quelque chose si on s'en tient à un seul des deux aspects.
Je suis ravie que vous l'ayez formulé ainsi. Alors, votre actualité, c'est donc la parution de l'essai philosophique « Relief de la mémoire, théorie des trous de mémoire » qui vient de paraître chez Liber. C'est un court essai de philosophie qui aborde avec rhétorique la question de la mémoire à partir de l'expérience des trous de mémoire. Et d'emblée, on a l'impression d'une opposition apparente entre ce dont on se souvient et ce qu'on oublie. Et vous levez dès l'introduction le voile sur cette opposition en précisant que les défaillances de la mémoire, les trous de mémoire, sont pour beaucoup d'entre nous l'expérience presque quotidienne par laquelle la mémoire en s'effaçant s'avère très présente. Et comme on pense à la vie quand on pense à la mort ou inversement, vous pensez la mémoire par l'oubli. La mémoire en philosophie serait la persistance du passé, sa représentation et les souvenirs qu'elle induit. Mais pour le philosophe que vous êtes, la mémoire comme ses troubles sont des notions pleines d'aspérité, en relief, chargées de sens suggérés. Alors votre essai se révèle comme un exercice réussi de réflexion philosophique autour de la notion de mémoire et son éclat. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous est venue l'idée d'écrire sur ce sujet? Est-ce que c'est vos enseignements pour les terminales qui vous a inspiré cette thématique?
Non, pas tout à fait. Alors l'histoire est la suivante. Comme vous l'avez précisé au début de notre entretien, j'animais l'Institut d'études lévinassiennes. C'est un ami maintenant qui a pris la relève. Enfin, j'y participe activement, j'y donne des conférences. Et il y a quelques années, on avait comme thématique la mémoire. J'ai commencé à travailler en me disant, voilà, par quel biais est-ce que j'aborde la mémoire? Et très rapidement, je me suis rendu compte, parce que j'avais forgé ma problématique à partir de Lévinas, qui distingue plusieurs formes de mémoire, mais on y reviendra peut-être.
Oui.
Et puis, j'aime partir aussi d'une expérience dans la vie, si vous voulez, existentielle. Or, en m'interrogeant sur la mémoire, en me demandant par où j'allais aborder la question, j'ai quand même constaté qu'au fond, si je regardais en moi, mais je crois que je ne suis pas du tout le seul, ce qui était le plus frappant relativement à la mémoire, c'est précisément les trous de mémoire. C'est-à-dire le fait que la mémoire n'est pas du tout quelque chose de régulier, quelque chose d'homogène, si vous voulez, mais que précisément l'expérience que j'en ai, c'est qu'il y a des éclairs, il y a des flashs, il y a des morceaux dont je me souviens, pour le dire de façon très concrète, mais il y a aussi beaucoup de choses dont je ne me souviens pas. Donc j'avais cette dialectique que vous avez mentionnée entre mémoire et oubli, et il m'a semblé que le trou de mémoire, c'était précisément intéressant parce que ça se situe à la charnière des deux. C'est-à-dire qu'avoir un trou de mémoire, d'une certaine façon, c'est savoir qu'on a su quelque chose, mais ne plus savoir ce qu'on a su. Donc on est exactement dans une espèce de mélange trouble et intéressant pour cette raison, de mémoire et d'oubli. C'est une forme d'oubli à laquelle se sont intéressés tout un tas de gens, notamment Freud, tous les petits oublis, les pertes d'objets, etc. Et en même temps, c'est quand même la trace d'une mémoire, puisqu'on sait qu'on savait sans plus savoir ce que l'on savait. Donc, je suis parti comme ça.
Alors, c'est tout à fait intéressant, puisque vous développez les reliefs de la mémoire. Et ça aussi, on va revenir sur cette idée de topographie au travers de plusieurs chapitres qui sont autant de théorèmes de notre géographie amnésique sur lesquels vous réfléchissez en convoquant les grands philosophes. Donc, Descartes, Husserl, Kant, Platon, parmi d'autres. Emmanuel Lévinas, on y revient, disait que la philosophie, eh bien, c'est citer les grands philosophes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces définitions?
Alors, ce qui est sûr, c'est que la philosophie, pour moi, et ça, je le dois à mon maître Béni Lévy, mais c'est vraiment ainsi que je la pratique, la philosophie, pour moi, davantage que citer les grands philosophes, mais c'est sur le verbe que je discute, c'est lire les grands philosophes. C'est-à-dire s'installer dans leurs textes et construire sa pensée dans ces textes. Donc, effectivement, en ce sens, si c'est ce que voulait dire Lévinas, je suis parfaitement, évidemment, d'accord avec lui. Et c'est vrai que c'est la structure que prend mon livre au départ. Ça commence comme un livre de philosophie, dit un de mes amis. Ça commence comme un livre de philosophie. Donc, vous avez un chapitre sur Descartes, puis Husserl, puis Lévinas, etc. Platon, beaucoup. Et puis ça va tout à fait ailleurs. Ça va tout à fait ailleurs.
Alors, c'est ailleurs avec cette idée totalement peut-être novatrice, je ne sais pas, hein, je ne suis pas philosophe, mais avec ces reliefs. Et vous expliquez bien, donc c'est chaque chapitre qui débute, en vous lisant, on voit bien les aspérités, les monstres qui descendent, etc. Comment vous est venue cette idée?
Alors, j'ai eu effectivement l'idée suivante, c'est-à-dire que trou de mémoire, je suis parti de là, je vous l'avais dit, trou de mémoire, c'est une métaphore.
Oui.
C'est une métaphore, parce qu'il n'y a pas de trou. Enfin, un trou de mémoire, ça, c'est une image, ça donne une représentation. Et effectivement, quand je me suis installé dans cette représentation, j'ai essayé de penser la mémoire, et ce qui m'a frappé, c'est précisément un aspect très physique, effectivement, très géologique, disons, de la mémoire, qui est que y a des sommets, il y a des creux, il y a des cavités, il y a des grottes même, certainement, à certains moments.
C'est le... Alors, moi, avec mon imaginaire, imaginaire, quand je lis le titre, Relief de la mémoire, théorie des trous de mémoire, je pense au gouffre. Et finalement, en vous lisant, les trous de mémoire sont plutôt positifs.
Alors, ça peut être les gouffres, effectivement, c'est les rifts, par exemple. Oui. Les chapitres s'appellent rifts et fractures. Donc, oui. Un rift, c'est un gouffre qui se creuse par un travail des plaques tectoniques et qui donc un espèce de gouffre avec des marches qui descendent. Oui.
Bon, mais toujours le mouvement chez vous.
Il y a toujours ce mouvement.
D'où le rift, la tectonique des plaques.
Absolument. Et à l'inverse, vous avez aussi des formes géographiques de concrétion qui forment c'est des trappes, qui forment des escaliers, mais qui montent vers le haut, vers un plateau. Donc voilà, c'est vrai que je suis resté dans un usage assez métaphorique, mais parce qu'il m'a semblé que dès qu'on parle de la mémoire, on est confronté à de la métaphore. Bon, la mémoire, je ne sais pas, classiquement, c'est une feuille blanche ou une tablette vierge sur laquelle s'inscrivent des souvenirs, des sensations, ou alors la mémoire, c'est un contenant, etc. Et donc je me suis dit, la métaphore... Alors en philosophie, on est parfois méfiant vis-à-vis de la métaphore, puisque... de façon un petit peu rapide, mais enfin en philosophie, on s'efforce de développer une pensée claire et distincte, pour reprendre les mots de Descartes. Mais il me semble, et il m'a toujours semblé, que dans la métaphore, il y avait une manière de dire plus que ce qu'on arrive à dire de façon extrêmement explicite. Alors évidemment, le risque de ce plus, c'est qu'on s'y perde. Mais en même temps, il y a beaucoup de suggestions dans la métaphore, et c'est vrai que du coup, je me suis vraiment installé dans cette métaphore du sol mental. C'est Proust qui parle de sol mental ou de la géographie mnésique en essayant effectivement de visualiser quasiment, puisque le sous-titre de mon livre, c'est « Théorie des trous de mémoire ». Et alors, pour pas que le mot fasse peur, théorie, il ne s'agit pas du tout d'un texte systématique, d'une théorie au sens où ce serait une armature conceptuelle très difficile. Théorie, je le prends au premier sens, en grec ancien, théorène, ça veut dire observer. Contempler. Donc, je contemple la mémoire à partir des trous de mémoire. Et effectivement, ce qui me frappe, du coup, c'est le côté absolument non-plan de la mémoire, le côté donc tout à fait creusé, ce relief. Voilà. Donc, je suis resté sur ces images. Elles m'ont semblé, si vous voulez, pouvoir donner le point de départ des réflexions que j'essayais de développer.
Alors, c'est très philosophique pour l'instant ce qu'on dit. On va aborder les thèmes de pensée juive. Et puis, il y a aussi la psychanalyse. Je ne sais pas si vous y avez pensé, mais dans la psychanalyse, la mémoire, finalement, l'oubli n'existe pas dans la psychanalyse. C'est un refoulement qui fait croire à la perte de mémoire en l'occurrence. Et dans un des chapitres, vous dissociez mémoire et conscience. La seconde ne s'interrompt jamais et la première parfois. Est-ce que ça aussi, c'est un paradoxe ou pas ?
Non, alors la psychanalyse, évidemment, je la croise à bien des moments dans mon livre. Il se trouve que biographiquement, je suis le fils de deux psychanalystes, de psychiatres, psychanalystes.
Ah, c'est pour ça.
Donc, ce sont des textes que je connais un peu. Oui. Maintenant, ce ne sont pas des textes dans lesquels je travaille habituellement. Je les connais, je sais, et ça m'intéresse que Freud a abordé la mémoire du point de vue de ses défaillances. Et c'est aussi ce que je fais avec le trou de mémoire. Donc, il y a un parallélisme, si vous voulez, entre les deux. Alors, quant à ce que vous mentionniez sur le rapport entre conscience et mémoire, c'est le premier chapitre, c'est le chapitre sur Descartes.
Oui.
C'est-à-dire que j'essaie de comprendre, si vous voulez, à partir de l'image du trou de mémoire, donc cette image d'un trou dans la mémoire, parce que c'est ça, le trou de mémoire, finalement, on le conçoit comme un trou dans la mémoire. Donc, on suppose que la mémoire n'est pas trouée, qu'elle est pleine, continue, homogène, comme je l'ai dit. Et du coup, je me demande d'où ça vient, cette représentation. Et chez Descartes, je trouve l'idée suivante, que Descartes, justement, montre que la conscience est continue. Hein, elle est toujours, elle nous accompagne toujours, c'est l'attribut essentiel de l'homme. Et donc, l'homme est toujours conscient ou pense toujours. C'est la même chose chez Descartes, conscience et avoir conscience ou penser. Chez Descartes, c'est la même chose. Et puis, évidemment, Descartes s'est heurté à beaucoup d'objections de ses correspondants à l'époque, quand il a publié les Méditations métaphysiques. Il disait, mais non, il y a des expériences dans lesquelles on semble ne plus avoir conscience. Et Descartes répond à ces objections en disant, non, c'est pas vrai, on a toujours conscience, mais on ne se souvient pas toujours qu'on a conscience. Donc, parce que par exemple, je le fais très vite puisqu'on est à la radio, j'essaie de ne pas assommer les auditeurs, mais en gros, vous savez très bien que vous avez pensé l'année dernière à cette date, mais évidemment, on ne se souvient pas de ce qu'on a pensé. Et pourtant, c'est certain qu'on pensait. Donc, le fait qu'on ne se souvienne pas ne prouve pas qu'on n'était pas conscient. Donc, Descartes va affirmer que la conscience est constante. Et à partir de là, effectivement, je crois, par contamination, nous avons tendance à projeter cette caractéristique de la conscience sur la mémoire, puisque la mémoire, c'est, d'un point de vue philosophique, mais je crois d'un point de vue d'expérience courante, la conscience du passé. Donc, on donne les caractéristiques de la conscience à la mémoire. Et j'essaye de le montrer dans le premier chapitre avec Descartes. Et ce chapitre s'appelle justement « Plaine circulaire » parce que j'essaye de montrer qu'il y a un cercle dans cette affaire. Puisque c'est la conscience qui nous permet de penser la mémoire comme continue. Et en même temps, c'est la mémoire qui nous permet de savoir que l'année dernière, nous pensions, même si nous savions plus ce que nous pensions. Donc, c'est la mémoire qui nous permet de concevoir la conscience elle-même comme continue.
Alors, ce que vous venez de dire appelle un certain nombre de questions. Je vais changer un peu l'ordre des questions que je voulais vous poser. Quand on pense conscience, en tout cas, moi, je pense à conscience juive, qui était l'essentiel, en fait, de la philosophie, hein, ou l'essence même de cette école française de pensée juive. Il y aurait finalement comme deux parties dans votre essai. Celle où vous convoquez les philosophes et les derniers chapitres qui sont vraiment ceux d'un penseur juif. Alors, je ne sais pas si vous récusez l'expression ou pas. Et vous évoquez les trous de mémoire inhérent aux commentaires bibliques et talmudiques. Alors, je vais vous citer, et les auditrices et les lecteurs auront aussi un aperçu de votre écriture. Vous écrivez « Les commentaires qui accompagnent les versets rappellent qu'à les dépasser vers leur sens, qu'à les relativiser en les inscrivant dans un plus ample récit, nous choisissons une lecture au détriment de nombre d'autres, pourtant comprises dans le verset ou parfois dans son articulation surprenante avec d'autres, situées tout à fait ailleurs dans le texte. Par leur étrangeté, ces commentaires font émerger des couches plus profondes et souvent insolites de la mémoire du texte, révélant ainsi les nombreux trous de mémoire qui perlent notre approche et notre compréhension. » Donc ce petit passage vient après une espèce de commentaire biblico-talmudique, c'est tout à fait intéressant. Hein. Vous expliquez avant, vous prenez l'exemple du chapitre 4 de la Genèse. Alors là, il y a plein de questions. On a l'impression que c'est une nouvelle lecture, une nouvelle manière d'appréhender le commentaire que vous essayez de tenter ici. Est-ce que c'était ça votre idée?
Alors, je reprends l'ensemble de votre question. C'est-à-dire, effectivement, ça vient à la fin. Les deux derniers chapitres sont consacrés à ce qu'on pourrait appeler, pour mettre une étiquette, la pensée juive, en tout cas l'étude juive. Alors, je précise que je ne suis moi-même pas juif. Hein, j'ai découvert le judaïsme avec Benny Lévy, en étudiant la philosophie avec lui, et puis en sentant, à travers son enseignement répété pendant les années, qu'il y avait quelque chose derrière, ou en tout cas, il y avait quelque chose qui fécondait sa lecture des textes philosophiques. Et bon, j'ai découvert petit à petit l'hébreu, j'ai appris le Kodesh, l'hébreu, bon, etc. Et j'étudie assez régulièrement avec un groupe d'amis. Donc, la lecture que je propose dans ce livre est un écho de cette étude déjà ancienne. Il se trouve que ce que j'essaye de montrer dans la deuxième partie, si on l'appelle comme ça, parce que je pense qu'en fait, cette deuxième partie, elle travaille déjà tout le livre dans la première partie de façon subreptice, si vous voulez. Donc, c'est comme la révélation, finalement, de quelque chose. Et ce quelque chose, précisément, a à voir avec les trous de mémoire. Donc, pour dire vite, pour les auditeurs, si on prend la Torah et le Talmud et qu'on lit la Torah comme un récit, ce qu'on a tendance à faire quand on la lit. Donc, on a des histoires qui se succèdent, qui s'articulent plus ou moins selon les moments, mais enfin, qui se succèdent. Et on a évidemment l'habitude de lire ainsi, c'est-à-dire de lire une histoire, de lire un récit. Or, qu'est-ce qui se passe dans l'étude juive? Il se passe que on va nous rappeler, disons, pour le dire rapidement, que l'unité de base, si vous voulez, de la Torah, ce n'est pas le récit, mais ce sont les versets, ce sont les psukim. Donc, on va prendre verset par verset, et on va se livrer à un travail absolument incroyable sur chacun de ces versets qui va consister dans les commentaires donc des Mefarshim ou dans le Midrash ou dans le Talmud, qui va consister donc à décomposer d'une certaine façon, à analyser, donc en termes philosophiques, analyser ça veut dire décomposer, hein, à décomposer le verset pour faire jouer tel mot, pour modifier la vocalisation de tel autre, pour renvoyer tel fragment du verset à un autre verset totalement ailleurs dans la Torah. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ce faisant? Eh bien, me semble-t-il, on a un texte qui est celui de la Torah qu'on pourrait prendre pour un texte linéaire, comme on a tendance à considérer la mémoire. Et puis, on a l'action du commentaire qui vient justement faire jouer les trous de mémoire, précisément, et qui vient nous montrer que c'est comme un hypertexte. Voilà, vous avez une sorte d'hypertexte. Donc, le commentaire vient nous montrer que finalement, quand on lit le verset comme un récit, On choisit une lecture, on choisit une interprétation, mais on le fait évidemment en recouvrant d'autres interprétations possibles qui restent cependant présentes. Et précisément, c'est ça le travail, me semble-t-il, du trou de mémoire. C'est un travail de révélation, en vérité. Le commentaire va révéler dans le verset ce qui s'y trouve, qu'on ne voit pas quand on le lit de façon linéaire, mais qui pourtant, une fois qu'on l'a étudié, s'y trouve de façon absolument évidente.
Vous avez des très beaux mots d'ailleurs sur la révélation dans ce premier chapitre, là, dans la partie que j'appelle « Pensée juive ». Il y a ce chapitre sur la figure de Noé où vous relevez que le récit biblique garde la mémoire de la révélation sinaïtique et des éclats de révélation qui l'ont précédé, alors que le Talmud révèle le trou de mémoire. Alors est-ce que finalement, à l'échelle du temps, la mémoire pourrait être le moment d'avant, celui qui est passé, et le trou de mémoire, celui qui rappelle ce présent du passé.
Alors, on pourrait le dire ainsi, je crois que si j'essaye de le formuler, ça donnerait la chose suivante. Je crois que le trou de mémoire renvoie à quelque chose dans le passé qui dépasse le passé. C'est un peu mystérieux comme formule, mais je veux dire que ça renvoie à quelque chose que Lévinas, par exemple, appelait l'immémorial, ou alors, dans certains de ses textes, anarchie, en reprenant le premier sens de ce mot anarchie, c'est-à-dire l'absence d'origine. Quelque chose qui serait là depuis toujours. Alors, si vous voulez, un peu à la façon dont... Tous les Juifs sont présents au Sinaï, bien qu'ils n'y aient pas été, je veux dire, si on parle des Juifs d'aujourd'hui, mais ils y ont été présents. Voilà, c'est quelque chose de cet ordre-là, si vous voulez. C'est quelque chose de cet ordre-là. Alors, ce qui se passe pour le judaïsme, on en trouve, vous l'avez mentionné dans le Talmud, on trouve quelque chose d'absolument fabuleux et qui, moi, m'occupe depuis plusieurs années, depuis que j'ai rencontré Béni Lévi, qui est dans le traité Sanhédrin du Talmud. Rabbi Yohanan montre que un des versets qui s'adresse à Adam, en vérité, dans la Genèse, est un verset qui énonce sept mitzvot, sept commandements, qui s'adressent à ce qu'on appelle dans le Talmud les Bene Noar, les fils de Noé, d'où la figure de Noé dans mon livre, évidemment. Hein? Et donc, ces sept mitzvot sont des mitzvot qui s'adressent, pour le dire très vite, aux non-juifs, à ceux qui ne sont pas juifs, précisément. Et cette révélation-là, qui se fait dans un verset, à en croire Rabbi Yohanan, évidemment... personne ou presque personne ne la connaît. Celle du Sinaï, on la connaît. Enfin, les Juifs la connaissent. Les autres la connaissent parfois, oui. Par oui dire.
Certains
l'ignorent complètement. Enfin, bon, on la connaît généralement quand même. Voilà. Par contre, cet enseignement sur ce qu'on appelle la Torah, donc des fils de Noé, des Bnei Noar, c'est tout à fait inconnu. Et pourtant, précisément, ce que fait le Talmud, c'est de réveiller, à propos d'un verset qui a l'air de parler de tout à fait autre chose, de réveiller le souvenir de cette révélation-là. Voilà. Donc c'est un peu ça le mode, c'est-à-dire que c'est le trou de mémoire, c'est comme, si vous voulez, la résurgence d'un passé plus ancien que tout passé qu'on pourrait inscrire dans un récit. Donc le récit mémoriel, comme on le construit chacun pour nous, et comme les groupes, les communautés, etc., les ensembles le construisent pour eux aussi.
Nous sommes toujours dans Du côté de chez Schwartz, l'émission actuelle et culturelle en compagnie de Gilles Anus, avec qui nous discutons de son relief de la mémoire, théorie des trous de mémoire, qui vient de paraître chez Liber. C'est tout à fait passionnant ce que vous expliquez, et on comprend mieux finalement qu'il n'y a pas de rupture entre ces parties. Je disais ça tout à l'heure. Est-ce que finalement l'idée initiale de réfléchir philosophiquement à la mémoire et à ses trous, c'est pas foncièrement une réflexion juive? Vous parlez vous-même de mémoire de la création pour évoquer la Torah partout, tout le temps, aussi bien dans les prières quotidiennes que lors de la célébration des fêtes du calendrier hébraïque, hein, vous venez de le souligner. Les juifs font référence au souvenir, pas le leur, mais celui de leur peuple. Il n'y a pas de place pour les trous de mémoire, car tout est fait pour ne pas oublier. Est-ce que, finalement, le peuple juif ne serait pas celui de la mémoire sans trous, sans défaillance?
Non, alors je crois pas qu'on puisse dire la chose comme ça. Le peuple juif est évidemment un peuple pour lequel la question de la mémoire est prégnante, décisive, puisque... Mais vous voyez bien qu'il ne s'agit pas d'une mémoire au sens courant du terme. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un récit du passé seulement. Ce récit du passé, c'est aujourd'hui que je dois le recevoir comme juif. Et donc, c'est aujourd'hui que je dois le revivre d'une certaine façon. On vient de sortir de Pessah, précisément. À Pessah, un juif sort d'Égypte. Il sort d'Égypte, bien qu'il n'ait, pour la plupart d'entre eux, pas tous, mais jamais mis les pieds en Égypte, évidemment pas dans l'Égypte pharaonique. Mais si vous voulez, il y a donc cette question de la mémoire qui est absolument prégnante, et puis il y a quand même une certaine façon de mettre en mouvement, de rendre vivante la mémoire, et ça, je crois que c'est l'opération des trous de mémoire, enfin, de ce que j'appelle les trous de mémoire, parce que si vous voulez, c'est l'idée que par-delà la trame d'un récit du passé, il y a comme des pointes, voilà, on va rester dans la métaphore, mais il y a comme des pointes qui viennent piquer un peu le présent pour se rappeler à lui. Et c'est ça, me semble-t-il, qui se joue dans le Zahor, dans la mémoire juive. C'est cette manière, à un moment donné, de laisser advenir dans le présent quelque chose qu'effectivement on peut connaître, on peut se raconter, etc., mais qui toujours va produire des effets inattendus. Voilà, et ce sont ces effets inattendus de la mémoire dans le présent. Voilà, c'est ça pour moi l'effet du trou de mémoire.
Alors justement, depuis jeudi, nous célébrons le Yom HaShoah, hein, ce fameux Zahor avec cet impératif de souviens-toi. Et c'est très peu abordé cette idée en fait que pour beaucoup de Juifs, eh bien, la mémoire, c'est la nostalgie d'un pays quitté, d'un pays auquel on a été arraché, qu'il s'agisse de l'Afrique du Nord ou de l'Europe centrale et orientale. Est-ce que ça aurait pu rentrer en ligne de compte dans votre réflexion ?
Ça aurait pu, la question de la nostalgie. Alors là, je vais vous répondre en philosophe. Puisque bon, chez Lévinas, il y a précisément une sorte d'opposition qui est posée entre la nostalgie que lui attribue à la figure d'Ulysse, donc Ulysse de l'Iliade et de l'Odyssée, surtout. Ulysse, donc, en fait, tout son trajet de vie et donc de pensée, puisque Lévinas le prend comme un trajet de pensée, c'est la nostalgie, c'est-à-dire le mal du retour. Et puis, à cette figure-là, Lévinas oppose celle d'Abraham, à qui on dit « l'erlecha, va-t'en pour toi ». Donc voilà, ce serait la figure de celui qui veut revenir et puis la figure de celui qui va de l'avant. Alors évidemment, il y a de la nostalgie partout, chez les Juifs comme ailleurs, mais chez les Juifs beaucoup, puisque pour beaucoup d'entre eux, ils ont dû quitter des lieux auxquels ils étaient tout à fait attachés, dans lesquels ils vivaient. Donc cette nostalgie, elle a quelque chose d'une mémoire. Maintenant, si cette nostalgie peut être aussi forte, c'est qu'effectivement, il se joue en elle, je crois, plus que simplement un souvenir, mais quelque chose de cet ordre du trou de mémoire. C'est-à-dire que c'est une forme de présence dans l'existence actuelle de ce qui n'est plus. Et c'est précisément cette présence qui d'une certaine façon, perturbe un peu la vie présente et qui fait des figures assez, en général, comment dire, touchantes de personnes qui, effectivement, tout en vivant parfaitement ici et maintenant, en même temps, sont porteuses de micro-chocs, comme ça, de micro-éclats d'une vie antérieure qui vient encore jouer un rôle tout à fait important. Ce n'est pas simplement la mémoire d'une vie familiale, c'est plus que ça, me semble-t-il.
Alors, au trou de mémoire rift du souvenir, alors on pourrait faire, le mot métaphore, vous ne l'aimez pas trop, hein, plutôt une association d'idées avec strictement l'inverse, c'est-à-dire que ce serait un plein, une sorte de montagne avec ses deux versants éclairés et assombris. Est-ce que ça peut être ça finalement, la mémoire et son trou de mémoire ?
Je crois que la mémoire et le trou de mémoire, c'est précisément effectivement cette alternance de dépression, de grands trous et puis de grands sommets, alors plus ou moins grands, hein, il n'y a pas besoin qu'un sommet soit immense pour avoir de l'importance, on le sait, mais en tout cas, voilà, c'est-à-dire que si vous voulez, notre sol mental, on peut avoir l'impression qu'il est relativement plan, mais en vérité, je crois qu'en dessous, dans les couches souterraines de notre mémoire, parce qu'il y a des couches souterraines de notre mémoire, les choses que nous oublions, finalement, on sait bien qu'on ne les a pas oubliées pour toujours, elles peuvent ressurgir. Elles ressurgissent parfois de façon tout à fait inattendue. C'est donc bien qu'il y a quelque chose qui reste quelque part. Donc, sous la couche, disons, assez plate de notre sol mental, il y a tout un relief, mais qui est souterrain. Et ce relief peut être de l'ordre du trou ou de l'ordre, au contraire, de la proéminence d'un pic, d'un sommet. Et je crois que, voilà, en marchant sur la surface plane de notre existence, qu'on essaye de mener tant bien que mal, parfois on tombe dans un trou, parfois on monte sur un sommet, mais sans même s'en rendre compte, en vérité, parce que tout se joue sur deux plans. Hein, donc oui, on pourrait dire que ce sont ces espèces de concrétions. Ce que j'essaye vraiment de montrer dans le livre, c'est ça, c'est qu'il y a une positivité du trou de mémoire. Parce que quand on dit trou de mémoire, si on dit c'est un défaut dans la mémoire, on entend la négativité, bien entendu. J'ai oublié quelque chose. Mais en vérité, je crois que cet oubli est tout à fait positif parce que, pas l'oubli comme tel, évidemment, mais cet oubli est tout à fait positif parce qu'il laisse la place à une surprise que le passé pourrait nous faire dans le présent, surprise contre laquelle on lutte en racontant notre existence passée.
Alors, à vous lire, à vous écouter, on a l'impression que l'écriture de ce livre et réfléchir à ce livre a été un moment intellectuellement très riche pour vous, presque amusant. Est-ce que vous l'avez perçu comme ça ?
Alors, il se trouve que... Oui, pour moi, l'activité intellectuelle est un moment très riche, effectivement. J'essaye c'est un fait, je m'investis pleinement dans ce que j'écris et j'y prends en général beaucoup de plaisir, même s'il y a beaucoup d'efforts aussi, beaucoup de travail. Donc, c'est vrai que la rédaction de ce livre, en plus, c'est un livre un peu particulier parmi les livres que j'ai déjà publiés, parce que les autres étaient quand même de facture plus classique, enfin classique. C'est pas vraiment le mot, mais enfin plus philosophique, disons, ouais. C'est plus des études de texte ou des choses comme ça. Il est vrai que là, c'est un livre de réflexion plus personnelle, disons. Et j'ai pris un grand plaisir précisément aussi parce que je me suis laissé aller à ce travail sur la métaphore. Finalement, j'aime bien le mot. Mais parce que voilà, je me suis laissé aller à ce travail sur la métaphore et que finalement, d'une certaine façon, à un moment donné, le fait d'envisager la mémoire, les trous de mémoire comme ça, en termes de géographie ou de topologie, ça m'a entraîné aussi dans la pensée et ça m'a amené sur des choses que je n'avais pas du tout prévu d'écrire au moment où j'ai entamé le livre.
En tout cas, c'est un vrai plaisir de vous suivre dans votre réflexion et de voir toutes les associations d'idées, parfois par capillarité. Alors, c'est une question que peut-être les auditrices et les auditeurs vont se poser en nous écoutant. Est-ce que ce livre est accessible à tous ? Est-ce que vous pensez que tout le monde peut le lire, quelle que soit sa formation, quel que soit son rapport à la religion ? Alors ça, oui, je vais dire oui, quel que soit son âge, etc.
Je pense que oui, et je m'explique si j'ai deux secondes. Oui. Non, j'essaye, c'est une des choses à laquelle je tiens beaucoup. J'essaye dans ma pratique philosophique d'être le plus clair possible. Je suis enseignant, ça joue un rôle important pour moi, et par exemple dans l'enseignement, je prétends qu'on peut aller dans des choses extrêmement difficiles en les disant de la façon la plus claire possible. Alors évidemment, on n'y arrive pas toujours. Hein. L'enseignement, c'est pas toujours si évident que ça, mais enfin, c'est pour moi vraiment une préoccupation. J'ai eu des retours de lecteurs sur ce livre, qui ne sont pas philosophes, qui n'ont pas de formation philosophique, qui m'ont dit avoir beaucoup apprécié sa lecture, pour effectivement le jeu sur les métaphores, pour l'écriture, qui apparemment peut parler à quelqu'un qui n'est pas philosophe. Je pense qu'il y a différents, exactement comme dans la mémoire, il y a différentes couches, je pense qu'il y a différentes manières d'aborder ce livre, et j'ose espérer que quiconque sait lire peut le lire, voilà.
Voilà, donc conclusion, n'ayez pas peur de lire Le relief de la mémoire, théorie des trous de mémoire. Il y a une question classique, mais non moins difficile, pour conclure cette émission, si en une ou deux phrases, vous deviez donner l'envie à ceux qui nous écoutent de lire votre essai philosophique, qu'est-ce que vous leur diriez ?
Ah, alors, question difficile. Oui. Alors, en une ou deux phrases, mais écoutez, si la question de la mémoire, ça je n'en doute pas, vous intéresse, si vous avez envie de l'aborder d'un point de vue un peu inattendu, j'espère, avec en même temps, si vous voulez, beaucoup de nourriture philosophique, mais en même temps un vrai travail d'écriture, et donc je pense des images qui peuvent parler à tout le monde, je pense que la lecture de ce livre peut présenter un intérêt. Bon, c'est toujours difficile de dire ça quand on est soi-même l'auteur.
Oui. En tout cas, c'est un ouvrage très, très stimulant intellectuellement, très agréable à lire. Hein. Je pense que tout le monde peut le lire. Et puis, avec cette impression qu'il ouvre des horizons nouveaux sur cette réflexion sur la mémoire et son opposé, ces trous de mémoire qui finalement se rejoignent. Merci infiniment, Gilles Anous, d'avoir discuté avec nous. Donc, de votre actualité, je la rappelle, la parution aux éditions Libère de Relief de la mémoire, théorie des trous de mémoire, et j'espère à très bientôt.
Merci, à très bientôt sûrement, oui.